Et rencontre aujourd'hui dans le 8-30 avec celui qu'on a surnommé un temps la grimpe. C'est la revanche d'un gars du sud sur les Chamoniards, celui qui a goûté l'amour de la montagne par la neige avant de surplomber l'Himalaya, un brillant sonnet, professeur de ski dans les débuts de Serre Chevalier, guide de haute montagne, professeur à l'école nationale de ski et d'alpinisme, l'ENSA. Raymond Renaud, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions du Mont Blanc Le Monde d'en haut, une épopée, c'est votre vie. Et pourtant, alors les débuts, c'est le moins qu'on puisse dire, ont été extrêmement difficiles. Enfant, aux mains et aux pieds palmés, c'est votre grand-mère qui va s'occuper de vous. Vous allez rester 6 mois seul dans la maison familiale à Saint-Crépin. Vous n'aviez que 9 ans. À l'époque, quand elle s'est cassée le fémur, on vous laisse à votre sort. Un enfant dont vous expliquez, hein, votre chien sera abattu par les villageois parce qu'il va manger dans les gamelles de ses congénères. La montagne, avant de vous faire le cadeau de votre vie, si je peux dire, hein, le cadeau de votre carrière, la montagne ou alpine, en tout cas, elle ne vous a pas vraiment fait de cadeau.
Écoutez, d'abord, c'est le village des Chapins où je suis né, au-dessus de Saint-Crépin. Et puis la montagne, eh bien, c'est assez étonnant, car j'ai vécu de ma naissance, après, je suis né à Saint-Crépin, au Chapin, j'ai vécu 6 mois, et nous sommes partis en Lorraine, les origines de mon père. Ensuite, 6 mois après, nous sommes arrivés à Avignon, nous étions réfugiés, et là, je n'ai jamais vu de montagne jusqu'en 1947. Et en 1947, j'avais une école, j'ai demandé à l'institutrice, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais devant moi... On appelle une montagne. Elle me dit, c'est une grande montagne où il y a des trous et les hommes, quelquefois, tombent dedans. Cette montagne s'appelle Mont Pelvoux. Et contrairement à ce qu'on croit, ça n'a pas été ma montagne magique, ça a été ma montagne tragique. Parce qu'ensuite, je me suis raconté des tas d'histoires dans ma tête. Voilà comment j'ai rencontré la montagne pour la première fois.
Oui, la montagne, c'est vrai, vous l'expliquez, la montagne, au départ, vous pensiez vraiment que c'était un endroit extrêmement cauchemardesque, hein, comme l'avait dit votre institutrice, où on chute forcément. Vous allez revenir hein, dans les Hautes-Alpes, c'est votre grand-mère qui va s'occuper de vous, et je l'expliquais, ça a été quand même très compliqué. La rencontre avec, en tout cas, les Hauts-Alpins a été très compliquée avant que vous tombiez sur des familles qui ont pu eh bien, vous donner certaines chances.
Oui, il est vrai que ça n'a pas été simple, loin de là. Mais si dans mon livre, je peux peiner, voire même gêner ce que j'ai écrit, c'est la vérité. C'était très dur, non pas que pour moi, un peu plus peut-être, mais la vie à cette époque dans les villages de montagne était très, très rude. Alors, plus une affaire personnelle de famille, ça fait beaucoup.
Ouais. Et donc, vous avez été laissé, hein, vous le disiez, pendant laissé 6 mois à votre sort avant que les services sociaux s'inquiètent un petit peu de vous. Et vous avez fait quand même de très belles rencontres. Par exemple, cette dame qui vous achetait tous les jours des produits que vous alliez chercher à Guillestre, cette femme à Guillestre, alors qu'elle n'en avait absolument pas besoin. Et puis, ces familles qui vont s'occuper de vous aussi, qui vont vous prendre sous leurs ailes.
Eh bien, c'est le début d'une vie. Alors, quand j'étais là-haut, vous savez, à cet âge-là, on dit aujourd'hui qu'on était en sursis. Pas du tout. S'il faut se débrouiller, il n'y a pas à manger. Bon, on mange des graines, des amandes, des noix. Et le fait d'avoir bande de pignons à cette dame de Guillestre, elle me permettait d'aller chez le boulanger pour m'acheter du pain et revenir avec une grosse mousse de pain. Mmh. Très, très longtemps après, 30 ans après, cette dame dont je tais le nom, mais que avec toutes mes pensées, m'a appris qu'elle avait jamais eu besoin de pignons. Eh bien, c'est un peu le début de ce qui va m'arriver dans ma vie. J'ai eu un destin, par amour pour cette grand-mère que je n'avais pas vue depuis 4 mois. Je suis descendu prendre le car, comme on disait à l'époque, qui avait son arrêt à Saint-Crépin. C'était le 3 novembre 1952. Il commençait à faire nuit. Et j'arrive à l'endroit où le car s'arrête habituellement. C'est un petit café qui est tenu par Paul Bernardon. Et là, il m'apprend que le car ne passe pas le soir, mais le matin. Alors je dis, oh ben, c'est pas grave, je vais aller demander à la famille d'à côté là, de m'héberger. Il y a 15 jours, j'ai descendu la transhumance avec eux et j'ai passé la nuit chez eux.
Eh oui, vous les aviez aidés.
Ce jour-là.
Comment ? Vous les aviez aidés et ils vous ont refusé le gîte.
Oui, mais justement, j'étais tellement. J'étais presque sûr que j'aurais l'accueil qui me permettait de passer la nuit. Et là, grand silence. Ah ben non, aujourd'hui, on ne peut pas. Bon, pas de problème. Je retourne au café. J'étais en train de préparer une phrase qui voulait dire « Vous savez, je peux coucher par terre. » Je n'ai pas pu la terminer. Et c'est là où mon destin bascule. Un monsieur avec un grand chapeau est rentré dans le café. J'ai entendu M. Bernardot dire « Bonsoir, M. Crevel. » Et il lui a demandé « Vous n'avez pas une place dans votre voiture pour ce petit ?» Et ce grand cœur avec M. Crevel a dit « Oui ». Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai la chance de vous parler.
Voilà, il vous prend en effet dans sa voiture, mais pas que, puisque cette famille va vraiment s'occuper de vous. Elle vous prédestine même à une carrière d'ingénieur. Vous vous refusez parce que vous dites, hein, vous l'écrivez dans votre ville, moi je me sentais redevable, il fallait que je travaille rapidement, donc du coup vous allez devenir charcutier. Mais un charcutier avec quand même une envie d'altitude. Alors on va parler justement de cet amour, parce que votre livre, Le Monde d'en haut, c'est une déclaration d'amour, si je peux dire, à la montagne dans toutes ses formes. C'est une déclaration aussi à la montagne haut alpine. Cette montagne, en fait, vous la rencontrez, j'allais dire presque un petit peu par hasard. L'escalade, ça a été votre révélateur, votre révélation pour venir à bout de ce passé compliqué. Et vous allez impressionner les Briançonnais, les habitants de Briançon, puisqu'à l'âge de 16 ans, en septembre 1957, vous allez faire votre première ascension de la Meije. Et là, c'est votre coup de foudre pour la montagne. La Meije, aujourd'hui, elle n'a plus de secret pour vous. Elle vous a apporté ce qu'il y a de mieux ?
Alors oui, je reviens à ce premier jour de mon arrivée au sommet de la Meije. Eh bien, c'était... Bon, aujourd'hui, je veux dire, c'est magique. Non, c'était différent. J'étais bien. Alors, mes amis, qui étaient mes aînés de plus de 15 ans, eux se sont assis parce qu'ils connaissaient le sort de la fatigue. On est presque à 4 mètres d'altitude. Et j'ai failli me faire gronder parce que je restais debout à regarder 360 degrés d'horizon. Donc, bien sûr, je voyais le Mont Blanc, mais je ne savais pas que c'était le Mont Blanc à l'époque. Mais le ressenti que je me souviens d'avoir eu, c'est que ce jour-là, j'ai formulé intérieurement, ah, ça existe, et bien c'est cette vie-là que je veux avoir. Et beaucoup plus tard, je vais transformer ça en idéal. Ce jour-là, j'ai ressenti que ma vie serait faite d'escalade, de montagne, et ça continue aujourd'hui.
À peine 16 ans, et c'est ce que je disais, vous avez impressionné les Briançonnais. On n'arrivait même pas à croire que vous aviez 16 ans quand vous êtes redescendu dans le refuge. Vous avez en effet estomaqué tout le monde.
Oui, il est vrai que c'était ma première course, mon premier grand voyage en voiture. Et c'était tellement extraordinaire qu'on n'a pas trop les mots pour le dire. C'est du ressenti. Mais par contre, ce ressenti, je m'en souviens. Un an après, je retourne à la Meije par la face sud, qui est une muraille extraordinaire, ouverte par des alpinistes célèbres. Et là, c'est le mauvais temps qui va m'apprendre beaucoup. Au milieu de la course, certains vont continuer pour aller vers le sommet. Et là, c'est un instinct. Je dis non, il fait mauvais temps, on rentre. Et c'est ce qui m'a fait me faire remarquer, parce que les gens étaient étonnés qu'à un âge que j'avais 16 ans et demi, j'ai pu faire le choix, pas de l'orgueil, parce que c'était des orgueilleux ceux qui sont passés là et qui sont restés bloqués 2 jours et demi sur la Meije par mauvais temps.
Des Parisiens.
Donc, départ,
des Parisiens.
Oui, j'en parle dans mon livre parce qu'ils voulaient passer devant nous. Oui. J'étais avec mon ami Raymond Ginet, on a forcé un peu l'allure, et puis heureusement, au départ de la voie, il y avait une cheminée avec du verglas, et ce verglas les a ralentis alors que nous on est passé très vite, et voilà.
D'ailleurs, cette conception de l'alpinisme, vous l'évoquez dans votre livre, cette conception de la sécurité notamment, vous écrivez « Ne jamais dépasser les limites de ce que je juge être ma sécurité ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé tout de même de franchir cette limite ?
Alors, je vais vous dire, j'ai eu la chance d'avoir un ami de 15 ans plus âgé que moi. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'il prenait des crises d'épilepsie. Donc, dès l'âge de 16 ans, je suis devenu premier de cordée et j'ai organisé des relais, quand on s'arrête au bout de la corde, différents de tout le monde. Il fallait au moins avoir 2 pitons, un pour moi et un pour attacher mon ami s'il prenait sa crise. À tel point qu'un jour, je l'ai descendu de 150 mètres de la paroi, parce que c'est une épilepsie devenait de plus en plus forte. Et c'est sans doute cette cordée extraordinaire, avec un alpiniste qui était de bon niveau, qui dès le départ m'a m'a fait découvrir plus de sécurité que peut-être d'autres.
Autre terme que vous employez, c'est quand on fait la connaissance de la montagne, elle se montre tout de suite avec ses dangers. Le pincement de la peur a été mon plus fidèle compagnon. À quel moment vous avez eu le plus peur dans votre carrière, justement, d'alpinisme? On le dit aussi, vous avez été professeur à l'ENSA, vous avez aussi connu certains drames de la montagne.
Et oui, vous faites allusion à ce qui me fait encore de la peine aujourd'hui. La cicatrice n'est pas fermée. La traversée du glacier à l'âge de 16 ans, derrière mes deux amis, Robert et Jean Drapin, on marchait ensemble. Il y avait une trace en diagonale, il y a 400 mètres de chute. Je ne savais pas qu'il y en avait autant, parce qu'il faisait presque nu. Mais tout de suite, c'est un instinct que je vais garder toute ma vie. Je suis senti, il y a quelque chose qui ne va pas là. S'il y en a un qui dévisse, on va tous les trois en bas. Et toute ma vie, et ensuite de professeur à l'École nationale, partager les risques à deux en alpinisme amateur ou en alpinisme, mais en professionnel, on a un autre contrat moral avec la personne qu'on amène. Donc il faut travailler la sécurité. Et malgré ça, il y a des impondérables, il y a des imprévus, un peu comme l'avalanche peut-être de hier. Et un jour, on apprend un accident d'un copain qui était aussi prudent que vous. Et vous dites, comment se fait-il que c'est arrivé? Et surtout, quand vous faites allusion, je suis allé rechercher les 14 corps avec des amis, avec des professeurs et des guides, au pied de la Verte en 1964. Moi, la montagne, c'était du romantisme, c'était la beauté, c'était... Et là, je découvre le drame. Et ce drame m'a jamais quitté, mais m'a invité aussi à approfondir nos connaissances en utilisant les connaissances des anciens et avec les moyens modernes que nous avions, et bien d'essayer de faire avancer la sécurité. Et je crois que ça m'a souri puisque je suis encore là et j'ai la chance d'en parler aujourd'hui.
On ne peut pas passer à côté de l'Himalaya dans votre livre. L'Himalaya va vous amener des rencontres extraordinaires, notamment Indira Gandhi, hein, qui est la première ministre indienne, Lama Dablam, la plus belle montagne du monde pour vous. Aujourd'hui, que pensez-vous justement d'une certaine forme de commercialisation de la montagne?
Je l'ai vécu, j'ai eu la chance de faire des expéditions, exemple en 1970 le Pumori. Il y avait mes amis anglais qui étaient à l'Everest, un groupe, et nous au Pumori. C'était seulement extraordinaire. Et puis ensuite, j'ai vu arriver des dizaines d'expéditions. Le Népal, avec son administration du tourisme, a vendu des autorisations de plus en plus, jusqu'à 50. Comme pour l'Everest. Alors l'Everest, bien sûr que beaucoup de gens dans le monde entier veulent faire le sommet le plus haut de la planète, mais le mode de vie que j'ai découvert avec 500 personnes au camp de base, avec des vasques d'eau, des petits lacs glaciaires, où les uns allaient aux toilettes, les autres prenaient l'eau pour boire. J'ai dit, mais c'est pas possible, la chance que j'ai eue de ne pas connaître cela.
À un moment, on vous dit juste. Alors, je reviens sur votre ascension de la Meije, votre première ascension de la Meije. À un moment, quelqu'un vous dit eh oui, mais c'est dommage de commencer par la Meije avec des années de recul. Est-ce que c'est vrai?
Non, parce que j'ai mon ami Michel Blanchard qui m'appelle Amadeus. Loin de là, je ne m'appelle pas Amadeus, je m'appelle Raymond Romeau. Mais s'il y a des jeunes qui peuvent m'entendre aujourd'hui, la précocité dans une discipline, quelle qu'elle soit, ne nous amène pas à la maturité. Mais reconnaissons qu'il y a des jeunes qui ont ça dans, une révélation, pour moi, la montagne comme idéal. Et cet idéal vous amène à la beauté, vous amène à perfectionner, à aimer ce qui est bien fait. Donc, commencer par la plus belle, je ne me suis pas arrêté à cette ascension. Eux vont la faire une fois. Ils vont partir vers d'autres horizons. C'est pas mon cas.
Raymond Renouf, Le Monde d'en haut, publié aux éditions du Mont Blanc. Le Monde d'en haut, une épopée d'un haut alpin, comme vous l'écrivez, l'enfant sauvage des Hautes-Alpes devenu alpiniste de renom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Raymond Renouf.